Canadien Milos Raonic en 3-7. Gaël Monfils, Richard Gasquet et Julien Beneteau sont actuellement sur les cours. Gaël Monfils est opposé à l'Allemand Matthias Bachinger. Et pour l'instant, 4 jeux à 3 en faveur de Bachinger. Monfils est au service. Richard Gasquet va débuter son match. Il mène déjà 1-0 dans le premier set face au Colombien Giraldo. Quant à Julien Beneteau, lui, il est opposé au Belge Ruben Bebelmans. C'est 2 jeux partout dans le premier set entre ces deux joueurs.
Merci Fabrice. En direct de Londres, à tout à l'heure.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Ce soir, on remet les prix du concours de carnet de voyage sonore et vous allez en prendre plein les oreilles. On entendra les 3 meilleures créations et les gagnants seront avec nous en direct avec nos partenaires Ulysse, l'Omniplanet et Alibert.
France Inter. La différence.
15h04, c'est l'heure de la Bassi, j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, merci beaucoup pour la rediffusion vendredi dernier de l'entretien avec Cornelius Castoriadis. Vrai cadeau. J'avais écouté cette émission à l'époque, mais grâce au podcast, maintenant je peux la réécouter à volonté. Entendre la voix, les expressions, les phrases, la profondeur de Cornelius Castoriadis a été un moment d'une rare intensité. Une immense intelligence et une personnalité lumineuse. Je l'avais rencontré régulièrement pendant 3 ans. Une fois où, petite anecdote, je pestais à cause des problèmes du boulot, tu imagines, il m'a dit « Et moi donc, j'ai publié un bouquin au prix d'un énorme effort et voilà que c'est BHL que l'on invite à la télé. » Et oui, c'est comme toujours et comme pour tout le monde. Il n'était pas reconnu dans son temps, sauf par toi bien sûr. Tu nous as offert une semaine incroyable, Daniel. André Gortz, la grève de 48, et pour finir, Cornelius Castoriadis. J'écoute là-bas si je suis depuis 95. Je suis une AMG parisienne. Merci beaucoup.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. J'appelle pour dire à Madame Lagarde qu'en tant que contribuable, je souhaite payer pour les mineurs, pas pour Tapie et Luc Ferry. Madame Lagarde, vous devriez avoir honte. Honte à vous. C'était Marion dans les Landes.
Bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu le ministre de l'Industrie, Besson, qui s'est tiré du plateau de M6 parce que le présentateur lui posait des questions un peu désagréables en ce qui concerne le nucléaire. Et notamment les sous-traitants du nucléaire qui devaient témoigner et ça lui a pas plu. Il a enlevé son micro, dit « je me tire, je me barre, fais chier ». Monsieur le ministre, est-ce que vous serez présent le jour où en France il y aura un accident nucléaire? Est-ce qu'on pourra compter sur vous ou est-ce que vraiment ça vous emmerde et puis il faudrait se débrouiller par nous-mêmes, hein? Ce serait bien de nous le dire maintenant parce que quand ça va arriver, on ne saura pas où vous trouver. Merci.
Oui, bonjour, ici c'est Manu de Grenade. Ben, je suis heureux, je viens d'acheter 1 litre de bière. J'ai été à la manif à Grenade du 19 juin. On était 20 000 selon la police. Ce qui veut sûrement dire le double en vérité, et ce qui veut dire que ce serait comme 5 fois plus de personnes qui sont venues à la manif que la première qui était le 15 mai. Ça montre le travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée générale et des quartiers, donc ça marche, ça continue. C'est super, et je crois que dans tout le reste d'Espagne, c'était un succès incroyable. Donc c'était pour donner un message de dynamisme et d'espoir à tout le monde. Il faut continuer, ça marche. Vive les indignados, indignate.
Ouais, salut Daniel Selim. Bon ben, je suis actuellement avec les copains devant le commissariat du 4e arrondissement où on attend la sortie de nos 3 potes qui ont été arrêtés assez violemment, assez durement du reste, suite à la chanson de Brassens Hécatombe. On s'était tous regroupés devant la préfecture de police pour chanter la chanson de Brassens. Et on nous a intimé l'ordre de nous disperser puisque c'était considéré comme une manifestation non autorisée. Et évidemment, nous avons refusé. Nous avons voulu défendre la chanson de Brassens, la liberté de Brassens. Et bah, on n'a pas pu puisqu'on nous a poussé assez durement dans le métro de la cité, du métro cité. Il y a 2 copains qui sont tombés, il y en a un qui est tombé par terre, un deuxième qui s'est fait tordre l'oreille assez violemment par un gendarme, 2 qui ont été évacués, un troisième semble-t-il, et qui sont accusés actuellement là, d'outrage à un agent de la force publique, n'est-ce pas, et de rébellion. Et oui, on s'est rebellés. Ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Mais enfin bon, donc on attend la suite des événements, c'est pas ce qui va se passer. Allez, on vous tient au courant. Ciao.
Et ben voilà, ça s'est passé comme ça, samedi après-midi à 17h, à l'appel entre autres de là-bas si j'y suis. On était quoi, une 70-80 devant la préfecture de police de Paris. À la sortie du métro Cité, vous voyez cet endroit charmant avec le marché aux fleurs qui est là pour entonner la chanson de Brassens Hécatombe. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, récemment, des Olibrius qui osaient chanter cette chanson éminemment subversible se sont trouvés poursuivis par les Pandores. Alors on pensait quand même que c'était là une petite chose amusante à faire un samedi après-midi, alors qu'il y a une grande exposition Brassens, comme vous le savez, à la Cité de la Musique. Eh bien, ça ne s'est pas passé gentiment du tout. Il y avait 5 quarts de gendarmes dont un véritable mur de gendarmes qui fermait l'accès au métro Cité, à la sortie du métro Cité, et qui ont repoussé le public, des braves et doux chanteurs de Brassens dans les profondeurs du métro, et ceci sans ménagement. Il y a eu 3 arrestations suivies de garde à vue pendant 24 heures. Et puis voilà, on ne sait pas très bien les suites qui seront données à cette garde à vue. Mais c'est quand même assez formidable. On remercie encore une fois, comme on le faisait l'autre jour, la police d'intervenir avec autant de stupidité, ce qui la remet dans sa tradition et aussi redonne de la force et de la vigueur et du sens à notre vieux tonton Georges. Alors, il y a des pétition qui circule évidemment sur le net et qui vous invite pour demain, fête de la musique, à venir chanter Hécatombe de Brassens devant le commissariat de votre quartier. Renseignez-vous. Une affaire de police, ça tombe bien aujourd'hui parce que on va à Clichy-sous-Bois. On va à Clichy-sous-Bois avec Antoine Chao. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait là à Clichy-sous-Bois ? Vous vous souvenez peut-être, il y a juste un an, Noam Chomsky, l'intellectuel américain dissident, on va dire, était en visite en France, venait à une série de conférences, et il avait voulu rencontrer des gens, des jeunes, des quartiers populaires. Aussi s'était-il retrouvé à Clichy-sous-Bois, au lycée Alfred Nobel, à dialoguer avec les élèves de ce lycée, plus d'ailleurs à les écouter qu'à se faire écouter. Et ça avait été un échange sympathique et intéressant. Et on s'était dit, avec Antoine Chao et l'équipe de là-bas, si j'y suis, il ne faudrait pas que ça reste sans suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent quelques heures comme ça dans ces quartiers pour blanchir un peu leur image et qui ne reviennent jamais. Quand je dis ça, je parle pas des intellectuels. On n'a jamais vu BHL à Clichy-sous-Bois. Mais enfin, bien sûr. Mais enfin, voilà, on a voulu continuer cette rencontre. Que cette rencontre est une suite. Et tout au cours de cette année, de cette saison de là-bas, si j'y suis, Antoine Chao est venu au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois conduire, animer un atelier radio, un atelier d'apprentissage de la radio, l'enregistrement, du montage et aussi du journalisme radiophonique tel qu'on le pratique dans l'équipe de la BAS, si j'y suis. Et c'est ce que vous allez entendre maintenant, ce reportage, cet atelier radio Nobel. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'un arbre qui pousse. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BAS, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Amis de l'île et du Nord, bonjour. C'est donc exceptionnellement ce soir, lundi 20 juin, à la veille de l'été, que nous nous retrouvons au repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille à 20h. Tout ceci après une année bien remplie de nombreuses et belles réunions. Venez nombreux ce soir à L'Imaginaire à 20h dans le Vieux-Lille.
Salut les auditeurs de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, le 18 juin, c'est le 33e jour de grève de 8 factrices et facteurs du bureau de poste de Quingé, une commune du Doubs en Franche-Comté. Soutenus par Sud et la CGT, ils veulent obtenir le temps nécessaire pour effectuer correctement leur travail à la suite de la réorganisation de leur tournée. La Poste leur impose de travailler plus en moins de temps. Malheureusement, dans la France rurale, il faut aussi se bagarrer. C'est pourquoi une troisième soirée de soutien est organisée à la salle polyvalente d'Arc-et-Senans le mercredi 20 juin à 20h avec Sud Orchestra. Venez nombreux et motivés, nous comptons sur vous. On lâche rien.
1789, la Commune, le pouvoir aux soviets. 1936, le programme du Conseil national de la résistance. Le programme commun sont des points d'appui pour écrire l'histoire du XXIe siècle et déboucher sur l'évolution révolutionnaire chère à Jean Jaurès. Monsieur le regretté Castoriadis. Régis de Nîmes.
Atelier Radio Nobel, la radio des jeunes de Clichy, en direct du studio 406.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Atelier Radio Nobel,
la radio des jeunes de Clichy,
en direct du studio 406.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Atelier Radio Nobel.
I like very much the image of that a tree falling makes more noise than a forest growing.
Noam Chomsky, mai 2010, Clichy-sous-Bois.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, la radio des jeunes de Clichy, Atelier Radio Nobel.
Flight number 2, arriving from New York.
Atelier Radio Nobel.
Aujourd'hui, on va retrouver l'équipe du monde diplomatique. On va beaucoup parler, vous vous en doutez, de la Tunisie, de l'Égypte. Et puis on avait les élèves du lycée Nobel de Clichy-sous-Bois qui étaient là très attentifs et qui ont pu, à l'issue de cet enregistrement, poser des questions à l'équipe du monde diplomatique.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.
Je suis Alain Grèche, je suis journaliste au monde diplomatique et je travaille surtout sur le Proche-Orient et sur les pays musulmans et sur l'islam aussi en France.
Je m'appelle Fatima Merimi, je suis en DL au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. On voudrait savoir si vous pensez que le voile est contre-républicain.
Bon, quand il y a eu la loi sur le foulard, j'étais contre la loi. Mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas la loi elle-même. Parce qu'après tout, on peut discuter. Pour moi, ce n'était pas une question centrale. Ce qui me semblait inquiétant, et je pense que la suite l'a prouvé, c'est que ça s'inscrivait dans un climat qui était un climat d'islamophobie. Et ça avivait ce climat. Et ça faisait de l'islam une espèce de menace. Et on voit bien depuis cette affaire du foulard à quel point il y a aujourd'hui cette idée d'une menace islamique. Alors, on met dans le même sac Al-Qaïda, le foulard, une femme opprimée quelque part, etc., etc. Donc, c'est ça qui est le plus inquiétant. Encore une fois, j'étais contre la loi et j'étais contre le climat qui s'est créé autour de cette loi.
Quelle est votre définition, à vous, de la laïcité ?
Il y a des philosophies laïques, mais qui sont très vagues et qui sont parfois contradictoires. Et sur lequel on peut débattre. Il y a des laïcs, des gens qui se disent laïcs ont des conceptions très différentes de qu'est-ce que c'est la laïcité. En plus, selon les pays, il y a des conceptions différentes de ce qu'est la laïcité. Et puis, il y a les lois laïques. Les lois laïques, c'est des lois qui ont organisé la République à partir de la fin du XIXe siècle avec la séparation de l'école et de l'Église et ensuite la loi de séparation de l'Église et de l'État. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire la laïcité. Indépendamment de ce que moi je peux penser, ou vous, ou un tel qui peut avoir d'autres conceptions, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la laïcité. Or, on a l'impression aujourd'hui que ceux qui parlent de laïcité, en fait, ils ne veulent pas l'application des lois. Ils veulent élargir ces lois. Et le foulard, c'est une manière d'élargir ces lois. Ou bien on vous explique que la laïcité, c'est la libération des femmes. Je veux dire, la laïcité n'a rien à voir avec la libération des femmes. Je veux dire, en 1905, quand la loi de séparation de l'Église et de l'État est adoptée, les femmes en France n'ont pas le droit de vote. Donc, on voit bien que les lois laïques... Il y a une espèce de manière de faire de la laïcité un élément de combat, je dirais, notamment contre l'islam, parce que c'est évidemment l'islam qui est visé.
À intéressante, évidemment, la réponse d'Alain Grèche du Monde Diplomatique, mais encore plus intéressante, nous semble-t-il, les questions. Les questions sont celles des élèves du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. C'est eux qui font la prise de son, c'est eux qui feront avec Antoine Chao le montage, et c'est Fatima, une élève donc de première, qui pose les questions. C'est quand même différent lorsque ce sont des élèves qui posent des questions que lorsque ce sont des journalistes, d'autant plus que Fatima elle-même porte le voile. Et ces questions ne sont pas tout à fait celles d'un journaliste entièrement neutre. Voilà, tout au cours de cette saison de Là-bas, si j'y suis, Antoine Chao est venu chaque semaine dans ce lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois pour développer un atelier de sensibilisation à l'expression radiophonique, aux techniques des journalistes, du montage, de la prise de son, du mixage également. Et ça a donné donc cet atelier Radio Nobel avec une présence des émissions et du travail sur la page Facebook, indispensable, la page Facebook des élèves. Il faut rappeler évidemment de quoi Clichy-sous-Bois est synonyme. Zied et Bouna, vous vous souvenez de cette histoire, 27 octobre 2005, pour fuir un contrôle de police, des jeunes se réfugient dans l'enceinte d'un transformateur électrique. Zied, 17 ans, et Bouna, 15 ans, meurent électrocutés. Le troisième garçon, grièvement brûlé, donnera l'alerte. Des émeutes éclatent et gagnent tout le pays. Du 25 novembre au 4 janvier 2006, l'État, souvenez-vous, instaure l'état d'urgence. Les deux policiers impliqués dans l'affaire ont été condamnés pour non-assistance à personne en danger dans un premier temps, mais après que le parquet ait fait appel, ils étaient relaxés le 25 avril dernier. Pour l'instant, ce jugement a été frappé d'un pourvoi en cassation. C'est important de ne pas oublier ça parce que c'est une histoire évidemment qui hante cette ville de Clichy-sous-Bois, mais on va voir que il se passe pas que ça quand même à Clichy-sous-Bois. Il se passe exactement ce que disait cette étudiante à Noam Chomsky, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est cette forêt qui pousse qui nous intéresse aujourd'hui jusqu'à 16h sur Inter. Là-bas, si j'y suis, Atelier Radio Nobel.
Deux grands prix d'un départ, trop lourd, une tragédie de plus qui pèse sur les consciences, un handicap de parcours. Dites-moi c'est quoi les tises, c'est vrai que ça brûle chez nous, mais on peut pas rester insensible. Quelle est la solution pour vous? On a une pensée pour les frères, c'est pas comment ça pitié. Arrêtez la démagogie, on a déjà perdu Bouna et Zied. On vous demande pas de l'aide, stoppez l'hémorragie, nous donne la gerbe afin que les petits frères partent en père. Nous ici en fils de père.
Ceci est un SOS d'une jeunesse noyée dans le deuil, puis à tous les anges de là où le diable nous accueille. La France est sous les flammes causées par leurs provocations. Bilan, deux innocents dans l'électrocution. Mes condoléances à toutes les familles d'ici où tu bled. Les familles des deux petits frères Luna et Zied. C'est Lorenzo avec ma voix en guise de rose posée sur vos cercueils, mais on sait d'où vient la cause.
Il y a des choses pour lesquelles je lutte, c'est ces gamins qu'on bute. C'est le futur de la France qu'on décime d'un uppercut. Moi ce matin j'ai pris une baffe en allumant ma télé. Je pense à ces familles en pleurs, au destin que je veux insulter. Luna, on se reverra, Zied, on t'oublie pas. Je déplore cette occasion où je peux m'adresser à vous. Je rêve de réincarnation et d'un monde un peu moins fou. Mais avant c'est pour vos mères que nous on ira jusqu'au
triste
bout.
Triste constat, puisque ça reste constant, il rêverait qu'on se tue entre nous. Au final qu'on se plante, c'est la mort a frappé. Une fois de plus sans raison, la banlieue a craqué. Fallait que ça résonne, Zied, Bouna, comme un symbole. Les quartiers atteints de tumeurs, soignés au Saint-Ol, au flashball et au manque de respect. Génération cramée, ta jeunesse désespère.
Ils sont volés de nous,
c'est le dernier jour de classe alors?
Ouais.
Le dernier jour de classe d'espagnol, en tout cas. Dites-moi, comment c'est les cours d'espagnol avec...
C'est grave bien.
Alors, c'est ta classe, Paul, ici?
Ouais, c'est ma classe. Seconde 1.
Seconde 1.
Ouais.
Tu passes en quoi, toi, l'année prochaine?
Ah, je sais pas, conseil tout à l'heure.
Conseil de classe tout à l'heure.
Ouais.
Et alors, est-ce que tu veux poser à quelques-uns de tes camarades une question sur justement...
Ouais, il y en a qui sont chauds là-bas, là.
Il y en a qui sont chauds? Ouais. Tu y vas alors? Tiens, je te laisse faire.
Que penses-tu du commissariat?
C'est une bonne chose pour la ville, car c'est une ville très... comment dire ça? Voilà. Il y aura moins d'incidents et moins de violence grâce à ce commissariat.
Moi, pour moi, ça va être encore plus pire, hein, parce qu'ils font trop les malins. Ils font trop les malins.
Ça veut dire quoi qu'ils font trop les malins?
Trop les malins, ils croient trop, c'est bon, ils ont des flashballs, ils croient qu'ils sont tout permis, c'est tout.
Ça peut avoir en fait deux côtés. Soit ça nettoie les cités, ou soit ça sera n'importe quoi.
De toute façon, depuis qu'ils sont là, ça a beaucoup changé. Il y a de moins en moins de délinquants, il y a de moins en moins de problèmes.
Non, moi je trouve que ça va pas.
Non, franchement, ça change rien du tout. Ça change vraiment rien du tout. La dernière fois qu'il y a eu une tape devant le lycée, personne n'est venu.
Ça sert à rien du tout.
Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois depuis 2005? Eh bien, un commissariat. Voilà ce qui a été la grande nouveauté. Un commissariat. Le commissariat du renouveau, titrait le quotidien Libération. L'ouverture fin septembre 2010 d'un hôtel de police satisfait, association et élus confirmaient ce quotidien. Qu'en est-il sur le terrain, utile ou pas, ce commissariat qui est au milieu de la ville de Clichy-sous-Bois, non loin du lycée Alfred Nobel? Eh bien, Antoine Chao et les élèves de l'atelier de radio ont enquêté.
Karim et Paul, là, vous êtes prêts pour votre premier reportage?
Très prêts, oui.
C'est vous qui avez souhaité faire ce reportage sur le nouveau commissariat qui vient d'être inauguré il y a moins de 6 mois maintenant ici à Clichy-sous-Bois. Pourquoi?
Parce qu'avant, il n'y en avait pas et c'était mieux comme ça.
Donc toi, ton avis, c'est qu'on vit mieux sans police, quoi?
Ouais, c'est vrai.
Mais pourtant, la police, c'est un service public qui sont là normalement pour protéger le faible contre
Normalement. Parce que hier, c'était pas ça.
Qu'est-ce qui s'est passé hier, alors?
Hier, Paul y marchait avec son ami. La police sont venus, ils ont contrôlé normalement. Et quand ils remontent dans leur voiture, ils les insultent. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Atelier Radio Nobel, la radio des jeunes de Clichy.
Pourquoi cet atelier t'intéresse-t-il?
Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Atelier Radio Nobel.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'atelier radio Alfred Nobel?
Alors moi, c'est Fleur Fernando, élève en première ES. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant nos qualités, de montrer ce qu'on vaut, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de donner, et non seulement l'aspect de Clichy-sous-Bois négatif qu'on peut voir, de montrer aussi qu'on est des élèves intelligents, capables de s'impliquer et de monter, de mener à bien un projet.
Que penses-tu des médias ?
Moi, pour moi, la liberté de presse, elle n'existe pas réellement parce que on sait très bien que les médias sont contrôlés, qu'ils peuvent pas toujours exprimer ce qu'ils pensent réellement. Par exemple, lorsque un plateau télé, par exemple TF1, au lieu que ce soit le président qui se présente sur le plateau pour expliquer les choses, c'est les journalistes qui sont invités à l'Élysée et à la fin on les entend dire merci Monsieur le Président pour l'invitation. Mais non, il a pas été invité. Au contraire, c'est eux qui ont été convoqué en quelque sorte. Donc pour moi, oui, les médias sont contrôlés.
Je m'appelle Fatima Merimi, je suis en TL au lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois. Il y a quelques mois, Négus m'a appris que la parole se donnait pas mais se prenait. Aujourd'hui, je la prends cette parole pour dire que Clichy-sous-Bois, d'abord, c'est diversité, c'est mélange de couleurs, c'est paix, c'est bonheur, c'est amour, et pas brûler la voiture du voisin et galérer en bas du bâtiment.
Je m'appelle Asri Saltana, je suis élève de terminale au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois.
Pourquoi tu as choisi de faire l'atelier radio?
Parce que la radio, c'est un lieu où on a une liberté d'expression qui est démocratique et c'est une prise de parole qui est directe. Les personnes sont présentes en fait, s'expriment directement.
Et qu'est-ce que toi tu voudrais exprimer?
Énormément de choses. Et avant tout, le fait que je puisse m'exprimer.
La radio, en fait, c'est un moyen de donner la parole, en fait. Et cette parole, elle est souvent bafouée. Elle n'est pas donnée aux bonnes personnes. Elle est donnée aux personnes qu'on veut entendre seulement. Et voilà, c'est une liberté qui est aujourd'hui bafouée, qu'il faut reprendre.
T'as quelque chose à rajouter ?
La révolution.
Alors moi, j'aimerais ajouter qu'à Clichy-Souban, on n'est pas forcément des bêtes de foire, parce que ce qui est perçu plus ici, c'est l'insécurité, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà.
Je m'appelle Paul, je suis en seconde 1 au lycée Alfred Nobel.
Pourquoi t'es venu à l'atelier radio ?
Je pense que c'est une bonne idée de sortir un peu du climat à Clichy-Sous-Bois, parce qu'on pense que c'est trop banlieue, qu'on ne peut pas réussir ici. On a une mauvaise image de nous, surtout avec les émeutes de 2005. On pense que Clichy, c'est banlieue, c'est chaud, c'est difficile à vivre là-bas. Bah, moi qui vis là-bas, je pense que c'est bien, c'est... C'est pas chaud, comme diraient les gens, faut y habiter, faut s'y faire, faut vivre là-bas.
Bonjour, moi c'est Karim Beraïch, élève de seconde 1, au lycée Alfred Nobel à Clichy-Sous-Bois.
Tu penses quoi des médias en général ?
Qu'ils mentent, ils nous cachent des choses.
Lesquelles ?
Les chiffres des voitures brûlées au jour de l'an, les chiffres des manifestants et tout le reste.
Comment tu veux faire pour dire la vérité ? Par quels moyens ?
Je sais pas. Je sais pas encore.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Atelier Radio Nobel.
Alors moi, je m'appelle Antoine Chao. Je suis reporter à l'émission Là-bas, si j'y suis, sur France Inter, une émission de reportage, une émission d'investigation sociale et politique. Il se trouve que Daniel Mermet est venu, donc le producteur, disons le journaliste du programme dans lequel je travaille, est venu en mai dernier, exactement le 31 mai, le dimanche 31 mai 2010, avec Noam Chomsky, qui est un intellectuel états-unien, nord-américain. Il a fait des conférences à Paris et il a demandé à pouvoir rencontrer aussi des jeunes lycéens ou non-lycéens de Clichy-Sous-Bois. Donc il était venu ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici au studio 406 du lycée Nobel pour partager avec vous 20 ans d'écriture radiophonique et vous donner les clés pour... que vous fassiez une radio Nobel un jour ici.
Atelier Radio Nobel.
On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Atelier Radio Nobel, la radio des jeunes de Clichy, en direct du studio 406. Rejoignez-nous sur notre page Facebook.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Atelier Radio Nobel.
Voilà, on va revenir à la rencontre l'an passé, en mai dernier, mai 2010, entre Noam Chomsky et les jeunes du lycée. Avant d'écouter cette séquence, je voudrais rappeler ou vous informer que le prix pour la paix de Sydney, qui est un prix très prestigieux, a été attribué à Noam Chomsky, ce qui surprend tout le monde et ce qui fâche pas mal de monde dans le monde, mais notamment aux États-Unis, parce que récemment, lors de l'assassinat de Ben Laden, Noam Chomsky a déclaré que les crimes de Ben Laden étaient largement dépassés par ceux de George W. Bush. Voilà, c'était l'année dernière, donc cette rencontre à Clichy-Sous-Bois.
Bonjour, je m'appelle Petra Nana et je suis une élève en terminale ES. Je suis également ici pour participer au dialogue et pour savoir le point de vue de Noam Chomsky.
Donc bonjour, moi je m'appelle Farid, je suis élève en première ES, et en fait je suis ici, ça serait pour montrer à Noam Chomsky les bons côtés de Clichy-Sous-Bois.
Je m'appelle Kalsoum, je suis en première ES. Je voulais savoir pourquoi M. Chomsky est venu ici à Clichy-Sous-Bois. Pourtant, quand on se présente aux gens, on dit on vient de Clichy-Sous-Bois, ils nous regardent d'un air comme si on était des voyous, on était là. Les médias, ils donnent une image assez négative sur Clichy.
Donc, bonjour, je m'appelle Absin. Et en fait, moi, je voudrais savoir, justement, comme Kaltoum, pourquoi Noam Chomsky a décidé de venir à Clichy-Sous-Bois. On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, j'aimerais dire que c'est vrai, il y a eu les émeutes. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a beaucoup parlé. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe derrière. J'ai une petite idée qui a émergé là, au sujet du chômage, du taux de chômage. Enfin, ce qui serait bien aussi, ce serait interdire les délocalisations. Donc ça éviterait les pertes d'emplois ici. Et au lieu de délocaliser dans d'autres pays, autant délocaliser dans les banlieues justement. Donc ça favoriserait l'accès aux travailleurs, aux ouvriers dans leur usine. sans pour autant partir à l'autre bout du monde.
I like very much the image of that a tree falling makes more noise than a forest growing.
J'ai beaucoup aimé l'idée de l'arbre qui tombe qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
And I hope you won't mind if I borrow it and use it in writing and speaking.
Et j'espère que tu m'en voudras pas si je te l'emprunte pour l'utiliser pour des discours et dans des livres.
I don't know how to give a footnote reference. But I think it captures the essence of what has happened through history and what has to be done.
Mais je pense que ça capture vraiment l'essence de ce qui s'est passé dans l'histoire et dans ce qui doit être fait aussi.
It's true that a forest growing doesn't make a lot of noise,
parce
but once
vrai.
It's there, people see it.
Parce que c'est vrai qu'une forêt qui pousse ne fait pas de bruit, mais quand elle est là, tout le monde la voit.
And it overcomes the noise of a tree falling.
Et qu'après, on n'entend même plus l'arbre unique qui tombe quand il y a toute la forêt.
And these are really good and exciting ideas. I'm glad to hear them.
Et je suis vraiment très content d'entendre ces bonnes idées ici.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Several people asked why I came. I came to learn. I didn't come to give you answers. You know the answers better than I do.
Plusieurs personnes ont demandé pourquoi je suis venu, mais en fait, je suis venu pour apprendre, pas pour donner des solutions, parce que la plupart d'entre vous avez déjà ces solutions, mieux que moi.
So, for example, in my city, say Boston, there's virtually no media coverage of what happens in the poor areas. The only thing that's reported is someone was killed, or there was somebody broke a window, or something like that.
Par exemple, chez moi, à Boston, aux États-Unis, il n'y a absolument aucune couverture médiatique de ce qui se passe dans les quartiers populaires. On ne parle des quartiers populaires que pour dire qu'il y a eu une fusillade ou une agression.
The media represent the wealthier, more powerful, more privileged sectors.
Les médias représentent l'élite, ceux qui sont du côté du pouvoir.
If there's a, what's called a riot, it will be covered exactly as you describe. The social conditions and the concerns that lie behind it will be marginalized.
Et s'il y a ce qu'on appelle une émeute qui a lieu, la couverture médiatique sera à peu près celle que vous avez décrite, c'est-à-dire montrer juste l'explosion de violence en mettant de côté toutes les causes et les raisons sociales, économiques, politiques.
For a very simple reason, for privileged people to take account of the conditions that lie behind an occasional manifestation would be costly and difficult. They would have to ask, why is our wealth and privilege depending on the exploitation of others, and what can we do about it? That's an honest approach, but a difficult one.
Pour une raison très simple, c'est que pour ces classes favorisées, se pencher sur les raisons de ces explosions de colère, ce serait remettre en cause ce qui a même garanti leur statut, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que moi je suis dans une situation sociale favorisée en exploitant les autres, et donc ce serait remettre en cause leur statut, qui est une question assez difficile à se poser à soi-même.
Atelier Radio Nobel, nous allons vous présenter notre projet sur le commissariat de Clichy-sous-Bois, inauguré en septembre 2010, juste en face de notre lycée.
Zayed et Bouna ne seraient pas morts si, si finalement le fait de voir une voiture de police s'approcher et de prendre le risque d'être contrôlé les avait pas fait fuir.
Ce commissariat a beaucoup été médiatisé et sa structure est très importante au sein d'une petite ville comme celle de Clichy-sous-Bois.
Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vraies stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde?
Ce commissariat est-il une solution pour atténuer, limiter les tensions entre les jeunes et les forces de l'ordre? Ce commissariat répond-il aux attentes des clichois? Ce commissariat est-il une réponse aux émeutes de 2005?
Obligé de courir encore plus vite que les flics, je pense avoir ce cocktail du parfait Morico pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, Buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul.
Il est 17h54, on est à Clichy-sous-Bois, en face du grand commissariat de Clichy-sous-Bois. À ma gauche, il y a le McDo.
Et en face, on a le commissariat avec ses couleurs rouges et
la couleur du sang.
C'est quoi? C'est de la rouille.
On voit que du orange.
Alors, est-ce qu'il vous plaît ce bâtiment? Parce que c'est quand même une œuvre. C'est un
château,
c'est un architecte qui a fait ça, non?
C'est un château. Fresnes.
Villepinte. Ah, c'est une prison pour toi.
Ah oui. Vous avez vu dans le commissariat des murs de 5 mètres en fer.
Le commissariat s'adapte à la population où il est.
Oui.
Trop délinquant, gros commissariat.
Comment ça s'appelle la liberté?
Carrefour de la liberté. Carrefour des libertés.
C'est ironique quand même, liberté.
Oui. Non, une petite œuvre,
il y a peut-être
liberté.
Vous pensez que la police est incompatible avec la liberté? C'est pas justement pour défendre les libertés?
Ça a été son rôle, c'est normalement son rôle à la base. Vu le comportement abusif de certains policiers, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est comme ça, je veux dire. C'est comme ça que c'est perçu, en tout cas. C'est pas acceptable, leur comportement, de certains. Et eux, ils finissent par généraliser. Et parallèlement, les policiers finissent par généraliser, par croire que tous les jeunes sont des délinquants. Donc, vous avez la même situation, en fait.
D'accord, donc c'est important, justement, d'aller les rencontrer. Enfin, que vous vous rencontriez, quoi. Qu'on se rencontre, même, je dirais. Bon, bah, allons-y, alors. On va voir si...
Voilà, vous avez compris, ils ont entre 15 et 18 ans, ils sont élèves du lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, et dans le cadre de cet atelier de radio qu'on avait voulu avec Antoine Chao, tout au cours de cette année, Antoine est allé à Clichy, travailler avec ses élèves, leur apprendre, je le disais tout à l'heure, la façon de poser les questions, d'enregistrer, de monter et de mixer. Et le grand événement, c'est évidemment la construction de ce commissariat de police et cette rencontre.
Quels sont les objectifs de ce commissariat?
Mais comme n'importe quel commissariat, c'est assurer l'ordre public, assurer la sécurité et la sûreté des concitoyens qui demeurent sur Clichy-Montfermeil et sur l'ensemble du département.
Pensez-vous que les émeutes de 2005 ont-ils accéléré la construction de ce commissariat?
Accéléré, non. Ils ont peut-être mis en exergue ce que ce commissariat, justement, était une nécessité. Accéléré, je pense pas spécialement.
Pensez-vous que le dialogue entre la police et la population pourrait se rétablir?
Alors, moi, ça fait 23 ans que je suis sur le département. J'ai jamais constaté que le dialogue était rompu. En 2005, j'étais déjà là, moi. Parce que j'étais à l'époque fonctionnaire au Rincy. Donc, j'ai vécu en direct les événements dramatiques. Et c'est vrai que la situation à ce moment-là et les trois semaines qui en ont suivi, qu'on a pu connaître, à la base, il y a quand même un événement dramatique. La mort de deux gamins, c'est forcément dramatique. Elle est revenue à une situation quasi normale avec l'ensemble des personnes.
Pour vous, est-ce normal que leurs officiers de police contrôlent les jeunes et les jeunes se font insulter par les policiers?
Alors, bonne question, mais sans rentrer dans une quelconque polémique, hein, il faudrait voir au cas par cas et en fonction des situations.
C'est pas une question de polémique, c'est seulement l'explication du comportement abusif de certains policiers. C'est un fait qui peut s'expliquer par notamment le comportement des jeunes, mais par rapport à l'autorité des policiers, comment vous expliquez le fait que certains policiers justement abusent de cette autorité?
Encore une fois, il faut voir au cas par cas. Quel cas d'abus d'autorité de policier vous pouvez me mettre en évidence?
Vous parlez de cas par cas, mais je vais prendre mon cas. Hier, je me suis fait contrôler, et de contrôle normal. Et à la fin, un policier m'a dit à moi et mon copain, ferme ta gueule. Pourquoi cela?
Ça, je peux pas vous répondre. Il aurait peut-être fallu demander au policier en question pourquoi. En toute logique, il doit respecter les jeunes ou les moins jeunes, toutes les personnes qu'il contrôle. Après, s'il y a des abus, s'il doit y avoir des abus, on a un organe qui est censé nous réguler, qui s'appelle l'Inspection Générale des Services, qui est créé pour ça et qui s'occupe d'un certain nombre de cas. Donc je leur laisse toutes les prérogatives d'investigation pour juger, pour estimer les cas des abus qu'il pourrait y avoir et pour les sanctionner.
Quand on parle avec les jeunes du quartier, on leur pose la question « Qu'est-ce que vous en pensez de la police ?» Ils ne disent pas du bien de vous.
C'est pas une généralité. Moi, je suis père de famille. J'ai des enfants. J'ai des amis de mes enfants. Ils n'ont pas de haine envers moi. Ils savent très bien ma profession, mon travail. Il y a une certaine frange de population qui n'aime pas mon travail, qui n'aime pas ce que je fais. En général, parce que j'agis pas dans le sens qu'eux. Et quelquefois, j'ai une action répressive. Puis ces jeunes, il y a certains qui sont jeunes, qui sont devenus moins jeunes et puis qui, en fait, sont demandeurs.
C'est le commissaire qui cite « Il nous faut rattraper le déficit de confiance entre la police et la population ». C'est le commissaire qui le dit.
C'est dans le bulletin municipal.
Il y a donc un déficit de confiance. Comment vous expliquez ce déficit de confiance? Peut-être pas une haine, effectivement, mais un déficit de confiance.
Involontairement, de notre part, en tout cas, on a abandonné le terrain. On a laissé, pendant un certain temps, l'absence de commissariat sur Clichy et Montfermeil. Et la population, elle a pris l'habitude de constater notre absence, de faire sans nous. On poursuit déjà notre action pour qu'elle se réhabitue à notre présence.
Vous avez une action répressive, vous l'avez dit vous-même.
Oui.
Vous pouvez détailler?
Quand un individu ou une personne ou un groupe de personnes commettent des exactions, on est là pour les interpeller. On est quand même dans l'État républicain. Avant de présenter quelqu'un à la justice, il faut établir une procédure. Je ne vois pas d'autres moyens.
Le commissariat s'est implanté très rapidement. Il aurait fallu en fait faire de la prévention. J'ai interrogé des gens qui ne savent pas l'utilité d'un commissariat. À quoi sert cette institution? C'est dommage.
Absolument. Mais dans ces cas-là, moi, je vous renvoie vers l'éducation nationale. Moi, je suis fonctionnaire de police, je ne suis pas enseignant. Ça s'appelle l'instruction civique, pour informer les futurs citoyens de l'ensemble des institutions. Alors je parle du commissariat, ça peut être aussi la justice, ça peut être toutes les structures institutionnelles de l'État français. Je suis absolument d'accord avec vous. À votre service.
Traitement d'Inigo.
Politis, 5 mai 2011.
2734 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre des émeutes de 2005, recense le ministère de la Justice le 14 novembre 2005.
639 comparutions immédiates.
122 convocations.
108 informations judiciaires.
375 condamnés à de la prison ferme.
494 mineurs présentés à un juge des enfants.
Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver.
Je m'appelle Mamadou.
On a fait une enquête sur le commissariat de Clichy-sous-Bois. On est parti interroger le commissaire adjoint. Et on voudrait savoir ce que t'en penses.
C'est bien, mais ils ont pu faire d'autres trucs pour les jeunes. Parce qu'à Clichy-sous-Bois, il y a un gros taux de chômage. Et c'est les 19-25 ans.
Et toi, tu penses qu'il faudrait un pôle emploi?
Non, pas ça, mais des organismes sociaux adaptés, de toute façon. Pour moi, c'est à cause des émeutes 2005 qu'ils ont fait le commissariat. S'il n'y aurait pas les émeutes 2005, ils n'auraient pas fait le commissariat. Parce qu'avant les émeutes, les habitants de Clichy-sous-Bois, ils ont demandé un commissariat et ils ne voulaient pas. Et comme par hasard, après les émeutes, ils ont commencé à faire un commissariat. C'est pas cohérent.
Oui, mais l'adjoint au commissaire, il nous dit que c'est pas les émeutes.
Les émeutes, c'est après la mort de deux adolescents, il y a des bounas. Et ils ont passé le jugement, mais les policiers, ils ont été mis non-lieu.
Toi, t'en penses quoi de ce non-lieu?
Je pense que c'est injuste. Les parents, ils ont perdu... deux enfants chers et les policiers, ils ont dû être mis en cause, mais ils n'ont rien eu.
Tu penses qu'ils devraient avoir quoi?
Je pense qu'ils doivent être jugés.
Toi, tu penses que la justice, elle est inégale entre les policiers et les habitants et les citoyens?
Oui, parce que si ça sera des jeunes qui auront tué des policiers, les jeunes, ils seront partis en prison à perpétuité.
La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme. Triple trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout. Se ressent partout, centrale, sans bruit. Sans rien d'écrit, sans aucun parfum. De la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table. Tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou.
Je m'appelle Pierre Baron, je suis sociologue. Et il y a quelques années, j'ai travaillé sur sur les émeutes de novembre 2005 avec Michel Kokoreff et quelques autres sociologues. On avait été ici et puis dans d'autres villes comme à Saint-Denis pour essayer de comprendre ce qui s'était passé en novembre 2005. Et évidemment, au cœur des questions qu'on se posait, le rapport entre les jeunes et la police, encore plus précisément les jeunes garçons des quartiers populaires, les rapports qu'il pouvait y avoir et comment on était arrivé aux événements tragiques qui ont mené aux émeutes, mais aussi qu'est-ce qui se passait. Tout ça, c'était pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y avait un certain nombre de choses latentes qui ont rendu possible finalement ces trois semaines d'émeutes au mois de novembre-décembre 2005.
Pourquoi on a un tel rapport aujourd'hui entre les jeunes et les policiers? Comment vous expliquez cela en fait?
Zayed et Bouna seraient pas morts si finalement le fait de voir une voiture de police s'approcher et de prendre le risque d'être contrôlé les avait pas fait fuir. Samedi, je suis allé me promener dans le 16e arrondissement. Bon, j'ai vu des groupes de jeunes qui habitaient dans le 16e arrondissement. Il y a deux voitures de police qui sont arrivées. Il y en a pas un qui a pris la fuite. Hein. Il y en a pas un qui avait peur. C'est que c'est pas partout et c'est pas n'importe où que ces rapports entre les jeunes et la police sont aussi dégradés. C'est dans les cités qui cumulent d'autres problèmes. Voilà. C'est dans les endroits où les conditions de logement sont les plus mauvaises, sont les plus dégradées. C'est dans les endroits où le taux de chômage est le plus fort. Il n'y a pas que les rapports jeunes police qui sont dégradés en Seine-Saint-Denis. Enfin, le système de santé aussi est particulièrement dégradé. Il y a beaucoup moins de médecins par habitant. Il y a un des hôpitaux qui est pas très très loin d'ici, qui est l'hôpital Avicenne, l'ancien hôpital franco-musulman qui se retrouve sur le haut de Bobigny, qui est un véritable scandale. C'est l'hôpital qui est le moins doté en France par nombre de patients. C'est le moins doté en France par nombre de patients. Voilà, on pourrait énumérer le nombre de, sur toutes les questions sociales, les questions au quotidien, la manière dont vivent les gens ici, c'est à peu près toujours moins bien doté, il y a moins d'argent, il y a moins de moyens, il y a moins de que dans d'autres espaces. Voilà. Donc avant de dire qu'il y a des problèmes avec la police, il faut dire aussi que c'est un problème généralisé. Voilà. C'est un vrai territoire d'inégalité, la Seine-Saint-Denis, pour le dire.
Certains voient le commissariat comme une provocation par rapport à l'architecture et par rapport à l'immensité du commissariat. D'autres trouvent que c'est bien, mais que la police n'est pas là quand il faut. Ils sont là pour derrière les jeunes, mais quand une vieille dame se fait voler son sac, ils ne sont pas là. Donc il y en a qui ne comprennent pas l'utilité de la police ici.
Juste sur la taille du commissariat, ça dépend du travail policier. Vous savez que si vous mettez une brigade de répression de la fraude fiscale avec 200 policiers spécialistes dedans à la Défense, vous allez remplir les prisons de dirigeants d'entreprises de la Défense.
Je pense que s'ils avaient donné du travail aux jeunes, faire une piscine, un cinéma, c'était plus une priorité que construire un commissariat. Mais après, c'est vrai que c'est utile.
Il y en a beaucoup qui disent qu'il faudrait mettre un pôle emploi. Je crois pas que mettre un pôle emploi à Clichy-sous-Bois, ça puisse changer quelque chose. Si la politique, à la base, elle n'est pas contestée. Je crois que c'est un problème de politique et pas un problème de policier, peut-être. Il faudrait s'attaquer au fond. Alors, on lutte contre le communautarisme, sauf que ce communautarisme, je crois qu'il est créé par un communautarisme religieux. Économique, pardon.
Le communautarisme économique, j'aime bien ton expression. Il y a un vieux barbu philosophe qui appelait ça la lutte des classes, mais je pense que c'est à peu près la même idée. Mais moi aussi, je voulais vous poser quelques questions. Dans votre famille, à vous, est-ce qu'il y a des policiers? C'est une vraie question. On gagne correctement sa vie, on a la garantie de l'emploi. C'est un statut social moyen.
Non, mais c'est même pas un métier qui est demandé. Je veux dire, personne ne veut devenir policier aujourd'hui. Mais elle veut y aller pour changer la police, pour changer le système. Ça va être difficile.
Il y aura une arabe.
Est-ce que, par exemple, il y a des plombiers ou des maçons ou des ouvriers du bâtiment dans votre famille?
Non. Ouais, moi, il y en a quelques-uns. Mes frères, ils sont plombiers.
Effectivement, dans vos familles, il y a peut-être des gens qui peuvent le construire, le commissariat, mais pas qui peuvent y travailler. Il y a aussi une réalité, c'est que le recrutement aujourd'hui des policiers fait que ils sont extérieurs à la population sur laquelle ils interviennent. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont issus de cette population-là, c'est pas des gens qui ont des choses en commun culturellement ou en termes de position sociale. Et il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'ils viennent très très peu des quartiers populaires. Voilà. Et quelque part, on a beau encadrer, contrôler cette population-là, on vit dans un monde où finalement on n'en saura jamais beaucoup plus d'eux. Ça explique en partie les choses et ça ne fait qu'accentuer les rapports conflictuels, renforcer des décalages et des incompréhensions.
Atelier Radio Nobel.
On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
Atelier Radio Nobel.
la radio des jeunes de Clichy, en direct du studio 406. Rejoignez-nous sur notre page Facebook.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Atelier Radio Nobel.
Donc là, on va rencontrer Mohamed Meshmash, et c'est le collectif Assez le Feu.
C'est une association qui vient en aide aux familles. À l'entrée, il y a la photo de Ziad et Bouna. Et au fond, il y a un tableau où il y a des questions que se posent les gens qui travaillent ici.
Comment et par qui est élu le remplaçant du président du Sénat? Pourquoi y a-t-il une majorité de seniors qui y siègent et une carence de diversité? Question 22. Combien est indemnisé un sénateur? Existe-t-il un outil de contrôle d'assiduité?
On fait de l'éducation civique. On est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Passeport Citoyen. Donc ça permet à 25 jeunes qui aujourd'hui ne comprennent plus rien dans le fonctionnement de notre société et de l'État, et de se poser les bonnes questions, et de là vraiment travailler sur les droits et les devoirs, quoi. Et donc il faut refaire un peu d'éducation populaire, voilà. Et notamment où il en manque un peu plus, c'est dans les quartiers.
L'association, elle s'est créée durant les émeutes ou après les émeutes?
Alors tu vois, tu emploies un terme dont nous, on a tout de suite banni. On voulait pas. Parce que ceux qui ont utilisé le terme émeute, ça a d'abord été une catégorie d'hommes politiques qui, à un moment ou l'autre, n'ont pas voulu voir une réalité. Et nous, on les a appelés plutôt des révoltes sociales. Parce que derrière ce qui s'était passé, il y avait un message. Après, le fond et la forme, on peut en discuter. La seule manière de se faire entendre, c'est effectivement d'être descendu dans la rue, d'avoir cassé, brûlé, caillassé. Il n'y avait pas que des jeunes déstructurés dans la rue. Il y avait aussi des jeunes qui avaient des bacs plus 4, plus 2, plus 3, qui étaient en train de revendiquer la même chose, parce qu'ils disaient qu'à un moment ou l'autre, c'est du foutage de gueule. On nous a parqués dans ces quartiers. La seule insécurité qui existe, elle est sociale avant tout. Un taux de précarité, des gens qui s'en sortent de moins en moins, des jeunes qui vont étudier en leur disant bah vas-y, tu verras, tu auras la possibilité d'avoir un bon métier. À la finale, ils se retrouvent sous le carreau. Dans le dictionnaire, tu regardes le mot émeute et révolte n'ont pas la même signification. Donc ça a leur importance. Et derrière tout ça, le collectif Assez le Feu, lui, a décidé effectivement de créer cette association qui veut dire liberté, égalité, fraternité, ensemble et unis. Hein. On a joué sur les valeurs de la République qui sont aujourd'hui affichées un peu partout. Elles existent en théorie, mais en pratique, elles n'existent pas. Et parce qu'en 2005, il y a eu un embrasement dans toute la France, des normes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a quand même un état de siège. C'est pas rien. 21 nuits de violence. Il y a eu plus de 120 villes de France qui ont été touchées, avec derrière des messages. Donc le but, c'était de dire qu'il fallait qu'on mette des mots derrière ces mots. Et que ces gens qui, aujourd'hui, étaient dans la rue, indirectement, c'est d'automutilation qui se sont faits. Quand ils s'attaquent à leurs propres écoles, à leurs propres voitures, à leurs propres gymnases, c'est qu'à un moment ou à l'autre, ils souffrent tellement qu'ils ont besoin de se faire remarquer en disant « ça y est, il faut que ça s'arrête ». Donc notre démarche à nous, c'était de dire « redonnons un sens, justement, à tout ce qui s'est passé, et que contrairement à ce que les politiques voudraient nous faire croire, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils sont en décalage avec ce que les gens vivent réellement sur le terrain. Dire aux gens qu'à un moment ou l'autre, si on veut que les choses changent, il faut qu'on s'investisse aussi, nous, par le fait d'aller voter, que le fait de se taire, c'est de laisser des gens décider à notre place, et de redonner la parole à qui? À des gens comme toi, comme moi, parce qu'on a fait le constat que, pendant 30 ans, le pouvoir politique, que ce soit de gauche ou de droite, ils se sont partagés le pouvoir, d'accord? Donc la gauche et la droite sont autant responsables de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas non plus aujourd'hui être fier des révolutions arabes, de ce qui s'est passé, et d'oublier que devant sa porte, on a les mêmes problèmes avec notre jeunesse.
Merci à tous et à toutes. C'était une émission de l'atelier radio du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois, animé par Antoine Chao tout au cours de cette saison de La Basse où j'y suis. Merci à Viviane Vicente et Julien Rivoire, deux profs de ce lycée, et au proviseur Daniel Pelletier, excellent proviseur que Daniel Pelletier. Merci aussi à Pierre Baron et Mohamed Meshmash, ainsi qu'au commissaire Simon du commissariat de Clichy, et aux jeunes de l'atelier Paul, Saltana, Karim, Fatima, Afsa, Fleur, Ashvin, Mamadou et les autres. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, également sur la la-bas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Coy Nguyen et Franck Alirer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot, et Marina Tuyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis n'oubliez pas de vous préparer pour demain, la fête de la musique. Vous trouvez un commissariat dans votre quartier, vous venez chanter Hécatombe de Georges Brassens. Vous trouverez les paroles très très facilement sur le net, et rien de plus facile. Vous le mettez en cœur et vous leur chantez gentiment cette charmante petite chanson.
Il existe une force à travers le monde capable d'accompagner la croissance de votre entreprise, quelle que soit sa taille. DHL Express, l'excellence à votre service, tout simplement. Rejoignez-nous sur dhl.fr.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, ben, j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 3989 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 3989, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Il est 10h. Pierre est assis dans son fauteuil, il regarde par la fenêtre. On sonne, il fait rouler son fauteuil pour aller ouvrir. Approchons-nous un peu pour écouter ce qui se passe dans sa tête. Quand on ne peut plus se déplacer seul, c'est bien de savoir que quelqu'un vient vous chercher pour aller prendre l'air.
Auxiliaire de vie, c'est l'un des 18 métiers que 2 millions de professionnels peuvent exercer à votre domicile. Les services à la personne, ça vous change la vie. Pour tout savoir, appelez le 3211, prix d'un appel local depuis un poste fixe. C'était un message de l'Agence nationale des services à la personne et des ministères chargés de l'économie et de l'emploi.
Livre Inter 2011. Que font les reines après Noël ? Olivia Rosenthal.
Je dirais que c'est un livre à la fois sur la condition humaine et aussi sur la condition animale, et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est d'être un animal, qu'est-ce que c'est d'être un homme, et est-ce que les frontières sont aussi nettes qu'on veut bien nous le faire croire. Et voilà, ça parle un peu de ça, et ça parle aussi de la question de l'éducation. Pour devenir un homme, il faut qu'on soit éduqué pour, et ça a des bons côtés, puis ça a aussi un peu des mauvais côtés.
Il y est aussi question de l'émancipation d'une femme, un livre qui allie profondeur, émotion et fantaisie. Que font les reines après Noël ? D'Olivia Rosenthal. Livre Inter 2011.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, les infos, Angélique Bouin, salut.
Olivier Besancenot a tiré la foule à l'ouverture de son procès ce matin. Le facteur emblématique du nouveau parti anticapitaliste est poursuivi par le tribunal correctionnel de Nanterre pour séquestration et entrave à la liberté du travail. Avec 15 collègues, il avait retenu pendant plus de 2 heures des cadres de la direction départementale de la Poste des Hauts-de-Seine. C'était lors d'un conflit syndical l'an dernier. Nicolas Hulot, Benoît Hamon du Parti Socialiste, Arlette Laguillet de Lutte Ouvrière, entre autres, sont venus dénoncer un procès injuste qui cherche à criminaliser le mouvement social, selon Benoît Hamon. Salle de procès bondée, barbecue musical improvisé devant les grilles du tribunal, cohorte donc de politique. Il y avait près de 200 personnes venues réclamer leur relax. Un coup de pouce du Conseil régional de l'Île-de-France pour les agriculteurs victimes de la sécheresse. La région va renforcer ses aides financières et offrir du fourrage aux éleveurs, fourrage fauché sur ses terres, espaces verts ou bases de loisirs. L'Île-de-France est la 6e ou la 7e région agricole française avec 5000 exploitations et plusieurs dizaines de milliers d'emplois. À Florensac, dans l'Hérault, une fillette de 13 ans et demi dans le coma après avoir été très violemment frappée par un autre collégien âgé, lui, de 15 ans. Cela s'est passé à la sortie du collège de la ville. Les enfants se connaissaient, semble-t-il, et avaient un différend. Alors que la situation grecque fait frémir l'ensemble des pays de l'Union européenne, le Fonds monétaire international estime que la zone euro connaît une reprise économique globalement saine, mais met en garde tout de même les gouvernements. La crise de la dette publique menace de mettre à bas ses perspectives favorables, c'est ce qui est écrit dans un rapport publié par l'institution. En Syrie, l'opposition appelle à poursuivre la révolte après le discours jugé décevant de Bachar el-Assad. Dans un discours à la Nation télévisée, le président syrien a promis des réformes et un dialogue en vue d'élections législatives l'été prochain. Mais il a réaffirmé que son pays était la victime d'un complot. Un dialogue est inutile sans changement de régime, selon les opposants qui réclament le retrait de l'armée des villes et le droit de manifester sans aucune violence. Au Pakistan, les extrémistes continuent leur campagne de terreur. Ils ont visé une nouvelle fois un établissement accueillant des filles. Une voiture piégée a explosé ce matin près d'une université de Quetta dans le sud-ouest du pays. Il y a eu 2 morts et 12 de victimes, de blessés. On termine avec le tennis à Londres, la suite du tournoi de Wimbledon. Fabrice Abgral en direct. Raphaël Nadal toujours face à Russell, l'américain.
En effet, sur le central, Raphaël Nadal, le numéro 1 mondial et tenant du titre. Raphaël Nadal mène 2-7-0, 6-4, 6-2 et 4-2-1 dans le troisième set. Nous sommes donc très bien partis pour Raphaël Nadal. 5 Français sont sur les courts actuellement. Gaël Monfils sur le court numéro 2 est opposé à Mathias Bachinger, l'Allemand. Il mène 2-7-0. Gaël Monfils dans le match 100% français entre Edouard Roger Vasselin et Gilles Simon, avantage au moins bien classé des deux. Roger Vasselin a remporté le premier set 6-4. Actuellement sur le court numéro 7, Julien Beneteau mène 2-7-0 face au Belge Rubens Bemelmans. Et Richard Gasquet sur le court 18 est opposé à Santiago Giraldo, le Colombien. Et Richard Gasquet a remporté le premier set 7-5. Il mène 4-0 dans la deuxième manche.
Merci Fabrice, en direct de Londres.
Tous les jours,
c'est jouissif.
À partir de 11h,
le fou,
Stéphane Bern.
Bernard Pivot, vous êtes à la langue française, que Stéphane Bern est au brushing, une référence.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Jean-Marc Barr et Thierry Sausset, rendez-vous demain mardi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
On va pas y arriver.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter. Restez avec nous. L'après-midi se poursuit en musique avec vous, Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour, Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Peut-être avez-vous entendu que nous étions à Lille pour Piano Festival vendredi. Il y avait des invités, bien sûr, Jean-Claude Casadesu, des pianistes, dont Francesco Piemontesi, qui nous a raconté comment il était vraiment plein d'amitié musicale, d'admiration pour un homme du passé pourtant. Mais quelquefois, on peut apprendre de quelqu'un qui a disparu. C'était Edwin Fischer dont il nous parlait, né en 1886 et mort en 1960. Et, très émouvant, Francesco Piemontesi avait acheté le piano de Fischer, un magnifique Steinway. Et donc, on peut entendre ce pianiste légendaire, qui n'était pas le plus parfait de tous, mais qui avait une musicalité très profonde. On peut l'entendre parce qu'il y a un coffret qui est paru chez EMI, je veux dire EMI ou EMI, comme vous voudrez. 12 compacts disques, donc très, très passionnants. Certains anciens, évidemment, faut adorer Fischer et adorer la musique. Et puis d'autres enregistrements sont plus récents, on va en avoir la preuve. Un autre pianiste, Ronald Smith, se souvenait d'Edwin Fischer comme d'un lion amical, et il disait que l'éclat de ses yeux bleus, sous une paire de sourcils inoubliablement touffus, avait une expression moqueuse et cependant rassurante. Ben voilà, on croirait le voir, le personnage. Je vous propose le rondo, un extrait du rondo du 4e concerto pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven, interprété et dirigé par Edwin Fischer.
Thank you.
Le rondo final du quatrième concerto de Ludwig van Beethoven par le légendaire